De retour à On a des choses à dire, une présentation de Lucie Dail, le Parizeau cabinet d'assurance, Meubles André Beaulieu et le magazine Contact Affaires.
Ça nous fait toujours un grand plaisir de le retrouver avec sa verve légendaire. Moi, j'ai bien dit la verve. Le verbe, il a le verbe légendaire. Rénald Bergeron, notre
côté. Je ne peux rien dire. Hey, vous m'avez invité, à chaque fois qu'il y a des élections, je sors de ma tanière. Mais je voudrais faire juste une brève introduction, parce que la dernière intervention sur les ondes ici, ça a été le soir des élections municipales, où je me suis permis certains commentaires. Et quand je suis arrivé chez nous, puis le lendemain, un paquet de messages transférés par des amis de gens qui disaient « C'est qui, lui? De qui, pour qui il se prend? De quoi qu'il se mêle? » Alors, tout simplement, c'est que je suis un observateur de la scène politique depuis le milieu des années 70. J'ai couvert la politique autant à la radio, à la télé, dans les journaux. Et ça me donne, et depuis que je suis à la retraite, un certain recul pour davantage apprécier puis émettre des commentaires, que je veux essayer d'être pertinent, mais plus nuancé que ceux qu'on lit, malheureusement, trop souvent sur Facebook.
Puis... Il y a le talent d'être un bon chialeux.
Bon. Ben oui. Alors, là, dans la campagne actuelle, qu'est-ce qui sous-tend toute la campagne électorale? On dirait que c'est un appétit, une soif pour un changement. Les gens, ils aimeraient ça. Donc, ils aimeraient bien ça, là, donner une chance à un nouveau parti de faire ses preuves. Parce que ça ne peut pas être pire. Qu'est-ce qu'on a chialé? On chiale contre notre système de santé qui, pour plusieurs, est loin d'être performant. On chiale contre nos écoles qui tombent en ruine. On chiale contre l'éducation qui va mal puisque personne ne sait plus écrire correctement. Et j'en laisse passer. Alors, on se dit, les libéraux ont été là depuis la nuit des temps. Le PQ a eu sa chance. Et pourquoi ne pas donner sa chance aux nouveaux? Mais là, donner sa chance aux nouveaux, on a des problèmes. On a des problèmes parce que partout où on a... Ben partout. Autour de nous, lorsqu'on a voulu faire un changement, en Ontario, on a voté Doug Ford, puis ça leur a apporté la bière à une pièce. Aux États-Unis, ils ont voulu faire un changement, ils ont voté pour Donald Trump, et oui, il y a une base. Oui, il y a des gens qui ne jurent que par Dieu Trump. Mais ceux qui deviennent athées de la religion Trump, ou agnostiques de la religion Trump, ils sont de plus en plus en nombre croissant, surtout avec ce qui sort de nos jours, des dernières heures, avec Woodward et tous les autres. Donc, il y a des amis qui, parce que sur votre page Facebook, vous avez gentiment mentionné ma présence aujourd'hui, il y a des amis qui se sont empressés de m'appeler et qui sont empressés de m'écrire sur mon fil Facebook pour me dire « C'est bien beau, mais le changement, on connaît plus ou moins la CAQ. Est-ce que c'est vraiment une solution de changement? » Parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend au lendemain d'une élection CAQ. Mais une chose que je veux remarquer en parlant de l'Ontario et des États-Unis, ceux qui ont voulu des changements se sont en allés
vers la droite.
Les deux sont en allés à droite. Alors là, il y a quelqu'un qui va me dire, bon ben gauche-droite, c'est quoi? Si on n'est pas dans l'armée, gauche-droite, là. Mais tout simplement, là, 30 secondes. L'utilisation des termes gauche-droite vient de la Révolution française. Dans les années entourant cette dite révolution, ceux qui étaient assis à gauche du roi souhaitaient ardemment des changements, ils étaient progressistes et réformistes. Ceux qui étaient assis à la droite du roi voulaient maintenir l'ordre établi, conserver les acquis, ils étaient ce qu'on appelle aujourd'hui les conservateurs. C'est quoi la gauche? Intervention poussée de l'État, changement et réforme, entre autres dans l'économie comme la redistribution des richesses et des programmes sociaux, ce qu'on appelle l'État-providence. C'est quoi la droite? Limitation du rôle de l'État, conservation de l'ordre établi, défense des traditions, entre autres immigration, et des libertés individuelles. À droite, on aimerait bien la privatisation de certaines agences d'État comme la SAC, l'Hydro et peut-être le cannabis qui s'en vient. Mais au Québec, traditionnellement, on vote au centre. On vote au centre avec des tendances vers la gauche, on vote PQ, tendance vers centre presque droite, on vote libéral, et tendance droite, mais qui revient vers le centre, ça va être la CAQ. J'oublie le Québec solidaire, qui, lui, est pas au centre. Il est full à gauche. Donc, traditionnellement, on vote Québec centre. On n'aime pas chicane, on se tient dans le milieu. Là, les libéraux, là, ça fait longtemps qu'ils sont là. On est tanné de leur voir la face, ou du moins de voir la face de certains. On ne parlera pas de Barrette, on ne parlera pas de Couillard.
Ah non, mais oui, il faut en parler, parce que dans le fameux changement du Parti libéral, il a tassé Barrette pour y donner plus de pouvoir, puis il a d'amener à sa place une de ses disciples.
Oui,
c'est Mme Bourdon. Pas de changement, ça, là.
Ouais. Au PQ, ce qu'on me dit, c'est que le PQ a perdu son âme. On a tassé ce qui animait le fondement, la loi numéro un du Parti québécois, qui était de militer pour l'indépendance. Là, on sait que ça passe pas, cette idée-là. Là. La joke qu'a faite tantôt, l'autobus des Beatles qui est réuni, là, ceux qui avaient le grand rêve dans les années 60-70 d'un maître chez nous, non pas à l'agent de Sage de 70, mais à la René Lévesque des années... Jean de Sage, 60, et des René Lévesque, 70, maître chez nous, hein, et maître de notre propre destinée avec nos propres institutions. Ils ont eu 9 ans au pouvoir depuis les années 90, puis 18 mois dans les années 2010. La CAQ, il y a un chef peu charismatique, des idées discutables, mais la conclusion des gens, ils pourraient pas faire pire. Donc, dans le comté, actuellement,
on aime ça, Québec. Les Québécois voter, c'est-à-dire aller vers pour le moins pire.
Voilà.
Plutôt que d'aller pour le meilleur.
C'est ça. On a toujours, on a tendance à voter contre plutôt qu'à voter pour. Jusqu'à maintenant, la campagne est 23 août, si ma mémoire est bonne, 25 août, là, je l'ai noté puis je le retrouve pas sur ma feuille. La campagne, c'est une campagne, vous l'avez souligné en entrée, c'est une campagne de promesses jusqu'à maintenant, entraînant des déboursés futurs dont on n'a peut-être pas les moyens. Et toutes ces promesses-là vont se heurter au lendemain de la victoire à l'inévitable constat, les finances sont dans un état pire qu'on l'imaginait. Donc, on ne pourra pas tout faire, on va essayer de redresser nos finances. Puis même les libéraux ont déjà commencé à ouvrir une porte. Il y a eu les 3 années de récession, l'année de cadeau ou de redressement. Et là, on va se heurter à certaines de leurs promesses qui ne sont pas à coups de millions, mais à coups de milliards, et peut-être qu'on n'a pas les moyens de le faire.
Mais avec le dépôt du rapport financier là, qu'on a connu, là, il est censé d'avoir moins de surprises. Là.
Oui. Comme à chaque élection, pendant la campagne, tout est beau, tout est rose. Au lendemain de la campagne, quand le parti au pouvoir change, oui. Vous n'êtes pas si vieux que ça, mais je pense que vous avez traversé des élections, un changement de gouvernement où les finances laissaient nettement désirer. C'est arrivé avec Trudeau, Justin Trudeau à Ottawa. C'est arrivé quand M. Couillard est revenu au pouvoir après les 18 mois du gouvernement Marois. Et c'est arrivé à Mme Marois lorsqu'elle a pris la relève des neuf années de régime libéral de Jean Charest. On a toujours le même maudit constat.
Puis on a surtout... Quand ce changement-là arrive, la plaie de dire, là, on peut pas le faire parce que nos prédécesseurs nous ont mis dans le trouble. Fait que là, ils ont des excuses pour avancer et de réaliser toutes les promesses qu'ils voulaient faire.
Les finances sont pas au rendez-vous. C'est l'excuse officielle classique qui fait maintenant sourire. Alors, actuellement, on a eu des balbutiements de campagne. Là, déclenché depuis le 23 août. Avalanche de promesses par les partis et déboire dans les partis. Même le parti de gauche Québec solidaire est embarqué, c'est vous qui l'avez souligné aussi tantôt, dans une avalanche de promesses. Là, à quoi assistons-nous depuis le 23 août? On assiste à des démissions de candidats, à des faux pas, à des candidats controversés, à des promesses. Des candidats controversés à la Gertrude Bourdon, au Stéphane Le Bouillonnec et Stéphane Laroche, le gars de Saint-Jean, à la CAQ, et à Guy Leclerc de Beauharnois, qui finalement, hier soir tard, a décidé de retirer sa candidature pour ne pas nuire au parti. La campagne...
Est-ce que ça veut dire qu'on est rendu là, d'avoir de la difficulté à trouver des gens qui veulent s'impliquer, qu'on est obligé d'aller fouiller dans des candidatures qui peuvent être douteuses?
Jean, oui. T'as un job public.
Oui.
T'es soumis à l'éloge.
Oui, à la critique surtout.
T'es soumis à la critique. Là, quelqu'un qui va se présenter en politique, l'éloge, il connaît pas ça. Il ne connaît que la critique, il ne connaît que la rancœur, et il ne connaît que les sorties virulentes dans les médias sociaux. J'ai noté son nom, j'ai oublié. Celui qui est revenu là, à la CAQ là, en quittant 1,3 million là, dans Lévis. En tout cas, je m'excuse, mesdames et messieurs, la feuille où j'ai noté son nom, je ne l'ai pas, je l'ai oublié. Dubé! Monsieur Dubé. Là, lui, quand il est revenu, il dit « Maudit que j'avais hâte de revenir, puis maudit, je suis content d'être là. » Mais pour des Dubé, il y a combien de candidats qui vont rester assis tranquilles chez eux parce que...
Les vrais passionnés, il n'y en a plus.
Il y en a de moins en moins parce que tu t'en vas au boucher, là. Tu t'en vas au gibet à chaque fois. Donc, la campagne véritable va prendre son envol le 13 septembre avec le premier débat où là, les chefs vont être confrontés au bilan pour le Parti libéral et à leur bilan au parti de l'opposition et vont être confrontés aux promesses lancées jusque-là. Dans le comté, je pense qu'on va s'entendre que c'est une campagne traditionnelle, ben ben plate comme à l'habitude. En fait, depuis que l'emphase est mise uniquement sur la campagne des chefs, les campagnes d'un comté sont d'un drabe brun.
Pourtant, on a nos enjeux qui sont importants dans la région.
Mais là, la campagne devrait connaître son envol réel dans le 18 septembre lors du débat du Cégep, parce que là, les candidats, j'espère, devront chercher à inclure dans la plateforme de leur parti les enjeux locaux. Ouais. Les enjeux locaux, on a le pont, on a le vieillissement de la population, on a notre stagnation économique.
Le départ du contrôle de plusieurs organismes, dont la santé.
Oui, mais là, les libéraux ont dit hier qu'ils veulent régionaliser de plus en plus de services. Ils ont dérégionalisé. Les CLD ont eu leur claque. Les CLE ont eu leur claque. Ouais. Il y a eu un paquet d'organismes qui ont eu leur claque sous le règne libéral dans le segment compression. Dans le sein. Eux autres, ils appelaient ça. Ils ne voulaient pas dire.
Non, c'était pas de l'austérité, ça.
C'était pas de l'austérité, c'était des compressions. Ouais. C'était un meilleur contrôle des dépenses. Là, finalement, on a réussi au cours de la quatrième année. Puis là, on va redonner un certain pouvoir dans les régions. On a quatre candidats. Là, moi, je suis dans le. Jusqu'au cou, parce que j'ai eu une relation personnelle avec les quatre candidats. Si je suis dans les médias, c'est Sylvain Rochon qui m'a invité en 85 et qui n'a pas cessé de m'inviter depuis. J'ai enseigné à Sophie Chevalier. J'ai été collègue de travail et je suis ami avec le conjoint de Mme Sabourin. Et M. Aymon, lorsqu'il y a des enjeux intéressants dans la région, on échange, je ne dirais pas régulièrement, on échange sur Facebook, on confronte nos opinions. C'est la première fois de ma vie, et là où j'ai aidant peut-être, j'ai la première fois de ma vie que j'ai un contact serré à différentes étendues d'élasticité là, avec les quatre candidats. Le sondage que vous avez souligné tantôt du STM, pour moi, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Même pas une tendance, parce que des sondages de cette façon-là, qui bien expliqués, pas scientifiques, etc., là, c'est plutôt un signe de rapidité d'intervention des équipes électorales qu'un réel, une réelle expression de la volonté populaire. Mais c'est un signe.
Mais je pense que ça va être serré quand même pour les deux pièces.
Les deux leaders, ouais. Oui. Madame Chevalier, troisième rang, ça ne me surprend pas. Madame Paré-Sabourin, quatrième rang, Pagé. Ça. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit Paré, j'ai dit c'est Pagé. Paré-Sabourin, ça ne me surprend pas. Au quatrième rang. Là, il restera à voir quel est le conservatisme électoral dans Richelieu. Ouais. 60-63, 60-62, Union nationale, libéraux au pouvoir, M. Gérard Cournoyer, notre député. 63-70, là, si vous me permettez, là, Union nationale au pouvoir, Maurice Martel, notre député. 70-76, les libéraux au pouvoir, Claude Simard, notre député. 76-84, Parti québécois au pouvoir, Maurice Martel, notre député. 85-93-94, libéral à Québec, Albert Kelfa, libéral au pouvoir. 94, PQ reprend le pouvoir, M. Sylvain Simard. Et là, on est péquiste depuis 1994. Notre candidat est péquiste, même si on a eu le gouvernement libéral, grosso modo, de 2002 à 2003 à 2012. Le petit 18 mois du PQ, on est resté PQ. Et on est revenu au Québec libéral, mais nous, on est resté PQ. Et que dire du fédéral depuis 1984, qu'on est représenté au départ par un conservateur dans un gouvernement conservateur, mais depuis à peu près 90 par un représentant du Bloc, malgré la succession de gouvernements libéraux et conservateurs à Ottawa. On est resté fidèle à Louis Plamondon, mais là, Louis Plamondon, c'est pas un candidat, c'est Louis Plamondon.
C'est ça. Voilà. On a souvent voté pour le candidat plus que pour le parti.
Mais au provincial, je pense que là, le problème actuellement, c'est la tendance des gens à s'orienter non plus vers le candidat. Moi, j'ai hâte là, de vivre une campagne électorale où le candidat va représenter les intérêts de sa région à son parti et non pas d'être l'unique représentant du parti dans sa région à défendre parfois l'indéfendable des décisions du parti qui peuvent affecter assez rudement une région.
Une voix de la région vers les partis, le gouvernement.
Et non pas une voix du gouvernement chez nous. Exactement. On est capable de lire les journaux, on n'a pas besoin peut-être de cette voix-là.
Rénald Bergeron, merci beaucoup.
Merci bien.
Alors qu'on se revoit au moins le 1er octobre, mais on risque peut-être de se reparler d'ici là.
La balle est dans votre cour.
D'accord.
Merci, bonne fin de journée.
On s'arrête là-dessus, on laisse la politique de côté pour parler du monde des affaires. Hardiesse, ouais. Comment est-ce qu'on dit ça quand témérité?
Quand tu me le tiens.
Un homme d'affaires, un pharmacien qui décide d'investir dans les petites municipalités environnantes.
Au lieu de parler d'ordinaire, je pourrais parler aussi d'opportunité.
De courage.
Courage et opportunité.
Okay. Alors, on va lui en parler de toute façon. On va fouiller la question avec lui. Le pharmacien Sixian Lee est avec nous de l'autre côté de la pause.
CJSO vous convie à participer à son